Vous écoutez Les Passagers. Métier à tisser sonore et textuel, où s'y mêlent s'hybride et se trame, ligne de fuite et grain de parole, songe de texte et fenêtre de réalité. Faites flotter vos oreilles, décrochez vos attentions, ça ne durera qu'un temps. C'est la poésie en direct. Voici Les Passagers. Écoutez Les Passagers sur les ondes d'Univers 99.9 en direct en ce lundi 19 octobre 2020. Lundi de rentrée pour l'émission des Passagers en ce mois d'automne, de feuilles d'or et de vent fort. En cette période aussi si particulière qui masque les visages et les sourires et les expressions, et bien justement le thème de l'émission sera celui de la relation, thème de la relation autour de laquelle se sont construits les textes de cette émission. Alors, des textes qui ont été élaborés durant l'atelier d'écriture au Barzouge qui se tient chaque premier lundi du mois à 19h30, donc au Barzouge, à Bazouge, sous Aidé. L'atelier, l'exercice que nous avons suivi, était celui d'écrire autour de ce que signifie la notion de relation pour chaque participant de l'atelier, et qu'il nourrissait, amplifiait, augmentait avec des extraits tirés de livres qui nous étaient proposés. Eh bien, ces textes, vous allez pouvoir les écouter, les entendre en direct sur les ondes d'Univers, des textes de Anne, Eloane, Céline, Guillaume, Jacques Higelin, Giovanni Papini et Guillaume Siedo. Voilà, des textes accompagnés par Shadi au Oud. Merci Shadi de participer à cette émission. D'octobre, Les Passagers sur Univers 99.9 et sur le www.radio-univers.com. C'est maintenant en direct, c'est parti.
Alerter les bébés, par Jacques Higelin, sur la demande de Mélanie. Les gens épouvantés fuient le mal qui est en eux. Quand vous en croisez un dans le désert, il trouve encore le moyen de détourner les yeux, car son frère lui fait peur. Il a honte de son frère. Alors il se précipite en pleurant dans les bras du premier colonel papa venu qui lui jure la guerre, qui lui promet torture et prison pour celui qui a fait à son rejeton. L'affront d'un regard d'amour. Alertez les bébés. Alertez les bébés. Moi, je veux plonger mon poing dans ta gueule ouverte et te l'enfoncer jusqu'au cœur, jusqu'aux tripes, et te les arracher et les brandir à la lumière du soleil. Alertez, alertez, alertez les bébés. Alertez, alertez, alertez les bébés. Alertez les bébés. J'ai vu, un jour, 100 000 enfants serrer dans leurs poings l'étendard. De l'amour révolté, le vent dansait dans leurs chevaux et leur voix faisait trembler les murs de Babylone. Comment veux-tu que l'espoir capitule et qu'on retourne après ça, jeter en pâture aux chacals et aux requins ce pur élan de vie? Jeter en pâture et aux chacals et aux requins ce pur élan de vie, ce cri de rage. Alertez les bébés. Alertez les bébés. Alertez, alertez, alertez les bébés. Les rapaces de la mort se sont châtrés les ailes et ils traquent leurs petits dans les corridors des cités grises, des sacs de mensonges et des matraques à la main. Ils font la chasse à l'identité, eux qui ont égaré la leur, dans les basses fosses de paperasse, eux qui ont égaré la leur dans leurs entrailles repues de viandes assassinées. Alertez les bébés. Alertez. Alertez les bébés. Mais les rapaces de la mort se retournaient déjà, ivres de massacre. Que nous avions pris le temps d'alerter les bébés et de construire avec les bébés un mur de lumière qui fusille de clarté. Les yeux clos des morts vivants. Des morts vivants, les yeux clos des morts vivants. Alertez. Alertez les bébés. Les bébés, alertez. Alertez, alertez, alertez les bébés. Thank you.
jardin polymorphe. C'est un carré borné de rails. Une multiplication d'essences. Fleurs, herbes, arbustes. Un espace délimitant le vide. Un jardin de grand-mère désordonné de nature. Libre de laisser croître sans frein. Hier, comme lui, j'avais 1000 choses à écrire. Une fusion de mots, en idées construites, cohérentes. Aujourd'hui, l'entièreté de cet amas a disparu dans les vagues du sommeil. Disloquée entre les feuilles tombantes du jardin polymorphe. Quel dommage. À chaque fois, c'est le même jeu qui se joue, entre moi et le papier, même sérénade. Même déroulement conscient des événements textuels, même relation. Je parle seule dans ma voiture. La conduite produit chez moi un espace hors du temps, où la parole se libère. Je parle donc, je parle seule. Souvent des boucles paraissent, par digression, suivies de transgressions, aux règles tacites de mon propre jeu, un jeu de langue solitaire. Je dis, je répète, je redis à nouveau, jusqu'à apprendre par cœur tout ce qui m'est passé par la tête, avec la persuasion bornée que je serai capable, quelques heures plus tard, de remettre tout sur le cahier. Mais rien ne vient plus les heures suivantes. Qu'un trou béant, qu'une relation ratée, qui me gratte les parois du crâne, comme on cure un tourteau à la fin d'un plat de fruits de mer, avec hâte et désinvolture. Un coquillage vide, une moule matrice vaine à produire l'objet. Quel dommage. Je me gronde alors, je me dis qu'un enregistreur numérique serait la bonne alternative, mais sans persuasion. Consciente de ma fainéantise, de ma volonté en berne. Parfois, ce discours à moi-même me happe avec tant de violence que je conduis trop loin, trop vite. Je frôle les accidents de stop, de priorité à droite. Parole hypnotique, je m'écoute parler au sens littéral et cette voix me revient avec abnégation extérieure, étrangère, dissonante, envoûtante, épouvante. Elle me brûle, je me brûle, je brûle le feu rouge sans même ravaler l'erreur d'un merde. Penser suppose une relation, un échange, un dialogue. Ce n'est que dans l'après-coup que se forge l'illusion d'une origine, comme surgissement isolé.
Penser est un corps, et tout corps est la synthèse de ses rapports, de ses liens, de ses attachements.
La question ne se pose plus de savoir si l'on doit être libre ou attaché, mais si l'on est bien ou mal attaché. S'il n'y a qu'un seul moyen pour décider de la qualité de ces liaisons, s'enquérir de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font, apprendre à être affecté par elles.
Nul homme est une île, mais un archipel en constante mutation. Je n'existe pas autrement qu'en relation. Je n'existe pas ailleurs que dans le discours, que comme outil pratique, nécessaire peut-être, mais illusoire en termes d'être. Même si, fondamentalement, l'unité ne fait pas problème.
L'unité, c'est l'élément simple de la classification chimique. Inanalysable dans son essence, mais dont il s'agira de définir les possibilités combinatoires, c'est-à-dire les possibilités de connexion. Il n'est d'ambiguïté que rationnelle.
Comment se définit l'identité, si ce n'est par sa relation avec les traces de l'expérience, souvenir en mémoire, réflexe dans le corps, atavisme. Le vécu se sédimente comme les mots chez Sarraute. Nous sommes pétris, transformés sans cesse, sans le conscientiser, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Au point où, la limite, on devient presque poreuse, voire inexistante. La limite en devient presque poreuse, voire inexistante. Il n'y a plus de...
Il n'y a plus de « je pense donc je suis ».
On ne peut essentiellement isoler une unité de l'univers sans qu'elle n'en disparaisse. Et encore,
il ne peut y avoir de disparition sans trace de celle-ci.
Il n'y a pas d'inexistence fondamentale.
Le questionnement sur le sens du monde est la preuve de la non-acceptation passive d'un sens pour lequel nous ne sommes pas responsables. La question, l'interprétation produisent une différence herméneutique qui convertit l'être en possible. L'être échappe au statut que la philosophie avait voulu lui imposer. L'être n'est pas l'être déterminé et fini, il devient être à l'infini.
Chaque texte est une étoile au sein d'une constellation relationnelle de textes, de vécus, d'images, de tout et...
De tout et chaque constellation est à la fois une porte, une sortie, un passage. En suivant les étoiles filantes, esquissées à la fin de certains textes, une lecture transversale se dessine, faite de sauts entre les contributions dont la proximité est différente de celle qui alliait les constellations.
Manipulia.
quant au soudain progrès industriel qui s'est produit pendant notre siècle, et que l'on attribue généralement à l'homme blanc, celui-là même qui tenait le stylo quand on a écrit l'histoire. Son récit occulte l'irrationalité de se penser hors d'un juste yin-yang. Le yin-yang, c'est ces théories taoïstes, tu sais, qu'il faut une saine tension entre toutes choses, et que quand les contraires ne s'équilibrent plus, le monde s'écroule. Je délègue à la société de mes pères le soin de mettre en tension mes croyances et affects avec des valeurs communes qui me permettent d'être certifié membre d'un nous. Est-ce l'héritage judéo-chrétien qui me fait penser trop faible pour injecter à tout acte la rationalité nécessaire au vivre ensemble ou une sagesse tirée du « connais-toi toi-même » ? Romain Gary écrit « Je suis né minoritaire ». Est-ce cela de ne trouver aucun groupe d'appartenance dans lequel se fondre masser sans complexe ? L'idée que l'arbre seul n'a que la potentialité de faire forêt et que la forêt, elle, a développé des mécanismes réels d'autopréservation. Crever de fin du monde, racines entrelacées, a le romantisme en poupe. Même s'ils pensent qu'ils sont foutus, les familles et leurs substituts constructivistes ont l'habitude de savoir pourquoi ils se battent. Souvent, quand la vague de chaud des autres souriants me suit vers l'intérieur, creusant un sillon dont la marée descendante révèle les creux en courant d'air, je me rêve Chuang Tzu, détaché, autarcique, prodigieux, libertaire, terre à terre, courant d'air. La vague rugissante de la mer qui contient et ballante, leur chaud qui relie, exquis déséquilibre qui contre-coup brutal. L'État sauvegarde les minorités. La horde éjecte les errants insoumis. Croire au petit Bouddha en chaque nouveau-né, nu de traumatisme, prêt à tout pour tout, et porter au réel cette croyance, aussi délirante que ces légendes chrétiennes qui font pousser les églises. Kenny Arcana assène que croire en rien, c'est croire en eux. Soumettre un soi romantisé aux règles des majorités, c'est porter son talon d'Achille aux lapidations. Collapsologie, mon amour. Mode d'extraction du commun pour revaloriser les parias. Collapsologie, mon amour. Habitude de ne plus être en tension, lâcher prise ou syndrome de glissement. Combine de survie, combinaison des profils, ceux des ceux qui font groupe. Porte-t-on tous la faculté de faire groupe? La nécessité fait loi, ou peut-on méditer à contempler l'effondrement comme une habitude paisible vers une décomposition humble du corps anesthésiée par la faim? Elle, il, parle du désir de vie dans tout et pour tous. Dans les catastrophes, on parle des blessés et des morts, des personnes qui migrent par désir de vie au risque de la perdre. On ne parle pas de ceux qui s'assoient et patientent que l'injonction de faim, de soif s'amenuise, de certitude en paroi que le postulat pour l'homme serait la réémergence. Dans les films, les contre-pouvoirs sont rarement menés par des personnes qui ne seraient pas animées par la certitude que ça en vaut la peine. Romain Gary écrit « Au contact de la Seberg, il m'arrive de retrouver un peu de cette candeur qu'il faut pour gagner en sachant perdre. J'entends par là qu'il faut continuer à faire confiance aux hommes parce qu'il importe moins d'être déçu, moqué, trahi par eux que de continuer à croire en eux et à leur faire confiance. Il est moins important de laisser pendant des siècles encore des bêtes haineuses venir s'abreuver à vos dépens à cette source que de l'avoir tarie. Il est moins grave de perdre que de se perdre. » Extrait de Chien blanc. La tension est là, la source ne s'auto-abreuve pas. Il est un cycle nécessaire pour que l'eau ne soit pas putréfiée de stagnation. Alors, la collapso serait une histoire d'un entre-soi low-tech qui dicte au monde la bien-pensance humaniste. L'éducation populaire de la classe moyenne est morte dans l'œil de tir d'un flashball pointé sur une corporation absente. Aveuglée de s'auto-contenter la tête dans le sable d'une organisation à laquelle elle est la seule à vouloir adhérer. Si je crois que la classe moyenne ne croit plus en ses valeurs et méprise les révolutions si elle n'en est pas l'instigatrice, et que la cruauté du faire sa place et s'encoder est une langue indéchiffrable sans cortisol, alors de certitude, il n'y a que l'inconnu hypothétique de rencontrer cet espace non imaginé encore, qui contredirait de façon inattendue la détresse de devenir tarie.
Cette part du monde où nous sommes, il existe un amalgame énorme et difforme, une présence silencieuse, qui dans son propre noyau ne cesse de crier « Présence !» Présence ! Son dessein clair est de forcer le vide à se désordonner, à désobéir entre nous deux. Donc, entre nous deux, il est un vide. Oui. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Existence muette, l'une à l'autre. Illustre inconnu. Illustre inconnu est le terme parfaitement adapté. Un vide entre nous deux, comme entre la majorité des autres. Car à y regarder de plus près, il y a toujours plus de vide que de plein. Ceci étant valable pour toutes les matières. Un point dans l'univers est parfaitement adapté. Mais il s'en faudrait de peu pour bousculer cette béante nausée. Un tout petit peu. Tout pourrait commencer par le battement d'aile d'un papillon. Celui-ci, tirant trop à gauche, son vol se voit aspiré par la dépression d'une voiture roulant à 60 km/h au lieu des 50 autorisés en centre-ville. L'enfant à l'arrière de la voiture voit donc le papillon s'écrabouiller au centre du pare-brise, ne laissant que deux ailes colorées et une gerbe gluante type dorée. L'enfant à cette vue se met donc à hurler. Le père, le conducteur, devenant à cet instant un assassin. Le cri strident de l'enfant vient heurter le tympan du père qui divaguait dans ses pensées. Surpris, le voilà qui freine violemment. L'instinct de survie est le terme parfaitement adapté. Le freinage d'urgence engendre un crissement de pneus aigu, arrêtant les passants, les quidam sur le trottoir. Y étant, moi, tout comme les autres, je m'y suis arrêtée parce qu'un crissement de pneus en centre-ville, c'est toujours très impressionnant. Ça crée un espèce de déséquilibre, une dépression atmosphérique, un minuscule bouleversement qui m'a déséquilibrée de la tête aux pieds. En ce sentiment de perdre mon propre corps, qui m'emplit d'une angoisse subite, en silence, voici qu'à mon flanc, je découvre un compagnon. Tout comme moi, attentif, indécis, il s'avance dans la cohue. Car le crissement du pneu s'est envolé et la vie a repris son train. Tout comme moi, il scrute du regard les gens tout autour, les gens là. Tout comme moi, il traîne. Ainsi, tout commence par une bouillie de papillons écrasés, un cri d'enfant, une réaction inappropriée au volant et la gomme sur le bitume. Et puis, toi, près de moi, que je vois enfin, une cause à effet, tu deviens un compagnon de terre, inconnu mais reconnu. Le vide qui nous séparait jusqu'ici gesticule, il se distord. il ouvre la faille en fleuve et mon regard se pose sur ton épaule. Une rencontre est le terme parfaitement adapté. Depuis, l'espace entre nous se déforme continuellement. Il est un monstre mutant qui sculpte au présent le vide. Il transforme ce rien en désir de te connaître, de te reconnaître. C'est vrai, j'étais troublée. Que dois-je voir en toi ? Repris-je. Celui que je suis, répliqua-t-il calmement. Tu dois te disculper, dis-je d'une voix changée, en le regardant avec fierté. Disculpe-toi, blanchis-toi. C'en fut trop pour lui. Montrez patte blanche avant toute autre chose. Et son visage a dévié, et ses mimiques ont muté, crainte curieuse. Le vide entre nous s'est tendu comme un élastique. Chaque seconde, une réévaluation de l'espace entre nos deux carcasses. Aller et retour, lecture de visage, élastique cordon, matrice d'un désir, pousser la reconnaissance, pousser la naissance d'un face-à-face qui sera bientôt un nous. Nous, c'est ça le terme parfaitement adapté. Transformer le jeu en nous, voilà. Voilà toute la faute, le dessein universel. Je prends sur moi toute la faute, c'est ma vieille vocation inavouée, peine futile, peine facile. Notre faiblesse désespérée. Puisque des millions d'entre nous qui vivent la même vie ne surent que faire pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de naître dans l'autre. Que tout est fragile, que tout est relatif, que tout est arbitraire. Puisque tout ne tient qu'à un battement d'aile de papillon et qu'à un crissement de pneus, puisque quand je lui parle, rien n'est vérité vraiment, car vraiment je ne le connais pas, car vraiment il ne me comprendra pas puisqu'il n'est pas moi, que je ne suis pas lui, que nous ne sommes pas nous non plus. Et tout d'un coup l'espace n'existe plus. Car il est à présent trop près de moi pour le regarder. Il est flou. Une relation n'est que du flou, flou, floué par nos sentiments. Ah, ah, heureux ceux qui ne te comprennent pas. Qui te comprend ne peut que partager ta grandeur et ton désespoir. Fou, flou, floutu. Papillon foutu, pneu foutu, nous, tous foutus.
De son cœur, elle en fit un rien où déposer son leurre.
Thank you. van pasando las horas y va muriendo el esclavo y soportando maltratos. Llevo de pesar, llevo de pesar.
Le type est assis, seul devant une assiette de gazpacho. Et sa bouche fait un raz-de-marée. La serveuse est debout, seule derrière le comptoir, et regarde de ses gros yeux le liquide couler de son menton jusqu'à son assiette. Le type continue d'amasser de grandes pelletées avec sa cuillère tout en lisant son journal. Et la fille reste fixée sur le fil rouge ininterrompu reliant le menton du type à son assiette. Au moment où la fille s'avance vers lui, on entend une mouche sabrer le silence. Puis elle lui file une serviette, sans rien dire d'autre que quelques mots doux avec ses yeux. Et ses yeux disent: ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour. Mais le type la regarde à peine et le gazpacho continue à couler. Alors la serveuse repart derrière le comptoir avec son envie de faire l'amour qu'elle enferme aussitôt dans un sandwich poulet crudité.
Notre présent s'est à tel point enflammé que l'invoquer, c'est le louer au vent. Charnière d'un rythme fou, défilé probable de thèmes éternels, décime et dessine les âges. Inné, ce corps qui se gravit lui-même, cimes atteintes, se souhaite une moitié. Peau repue, enfle et décuple. Flétri. À l'usage et de l'usage commun naît le vecteur de sens. Relation des souffles pour un même trajet. À se farder de l'une, de Dieu et de tout univers, à dissonner les rythmes pour n'être pas fondu, à se cogner d'être des trop pareils, singuliers. Entre la fraîcheur extrême du printemps et la torpeur promise de l'été. Laisse-nous savourer la douceur éphémère de vivre.
un verre de vigne sous un soleil calme. Se tisse l'esprit pour se dire que nous sommes tous une part de la terre qui parle. Une part de la terre qui parle et qui se répond en ce lieu même. Ici, le soleil est une femme, en cet instant même. Nous sommes tous une part de la terre qui parle. Un front triste et des sourcils aux accents graves. Les révoltes, comme l'espoir, restent encore dans l'ordre des choses. Quelques mots d'enfant redonnent le sourire. Oui, la lumière vient toujours du ventre des femmes. La naissance d'un monde, voilà l'imprévu. La bascule des sens, l'origine. La lumière vient du ventre des femmes. Nous sommes tous une part de la terre qui parle. Tous une part de la terre qui parle. En haut du mont, il y a l'horizon, l'océan et les landes battues par les vents. Le soleil perce et traverse les cordes de pluie qui tombent sur la rade. Au milieu des airs car nord-ouest, les cheveux au visage et les yeux grands ouverts sur l'intensité du ciel, les silences se nourrissent de ce temps si vaste. Venu de loin, le regard se fond et devient. La terre est notre bateau commun. La terre est notre bateau commun. De là naît le temps. Nous sommes tous une part de la terre qui parle. Nous sommes tous une part de la terre qui parle.
Il ne suffisait pas d'être. Il fallait s'organiser, se donner forme, se dépasser. De corpuscules perdus dans le ventre d'une femme, je devais me transformer en animal humain accompli, capable de donner vie à d'autres hommes. Je devais choisir le sexe, je devais grossir et grandir aux frais de la personne qui me portait à l'intérieur d'elle. Comme un ennemi caché. Choisir le sexe. Pouvait-on parler véritablement de choix ? Ne sentais-je pas, à l'intérieur de moi, minuscule embryon tyrannique, la nécessité de commander, d'exploiter, de créer ? En moi, si j'avais une âme, ce n'était certes pas l'âme servile et passive de la féminine, receveuse et réceptrice, image faite pour être contemplée, peau détendue pour être caressée, corps modelé pour le viol et pour la profanation. Bondissait en moi l'âme brutale du mal. Je me sentais déjà homme et méchant. Et en même temps qu'homme, en tant que patron et que conquérant, je commençais à sucer le meilleur sang de celle qui m'avait accueilli, sans rien soupçonner. Et qui tressaillait déjà d'amour à la pensée incertaine de ma présence. Je commençais la guerre éternelle entre le fils et la mère. Je voulais entreprendre sans délai la vengeance méthodique de moi-même. Elle, souffrant sans résistance ni retenue, était la principale responsable de ma vie future, et elle seule, pour le moment, devait en sentir le poids, devait payer pour elle. Elle cherchait à se renfermer sur elle-même, dans sa vie personnelle. Elle tentait de ne pas se donner, de ne pas se gâcher. La troubler, la pensée du corps déformé, du gonflement humiliant, du déchirement atroce, des veilles et des soins nécessaires pour mériter le nom de « mère ». Elle sentait que sa jeunesse était en danger, que sa fraîcheur, que sa beauté commençaient à se faner, que sa maternité jetterait une première éclaboussure de neige entre les mèches de ses longs cheveux noirs comme la nuit. Elle ne le voulait pas. Elle ne me voulait pas. Je le sentais. Elle ne me voulait pas. Elle avait espéré que la dernière étreinte aurait été aussi inféconde que les précédentes. Et elle attendait avec une anxiété inquiète le signe périodique du sang libératoire. Mais cette fois, l'éternelle blessure d'Ève ne se réouvrit pas. Le sang attendu était déjà un grumeau de chair autour de moi. Il était devenu le premier nœud indestructible de mon corps. Et pas seulement ce sang, mais les vagues plus rouges de ses veines, le meilleur de sa nourriture attiré vers moi comme un tourbillon perpétuel et vorace. Tout ce que je lui dérobais devenait une partie de moi. Tout ce que je parvenais à lui soustraire augmentait ma propre force. Et de la force grandissait la masse, et la masse prenait forme, et la forme se précisait, et à peine se précisait-elle qu'elle changeait, et l'instinct me poussait, n'étant jamais rassasié mais satisfait. Terrible est cette guerre quotidienne entre la mère et le fils, entre la créatrice et la créature, entre ce qui se veut pas être et ce qui veut être. La mère ne t'aime pas encore, et toi, tu ne peux pas aimer la mère. Ce qui est bon pour toi est nuisible pour elle, ce qui te renforce l'affaiblit. Ton commencement peut être sa fin. Tu es comme un parasite qui la suce, comme un cancer qui la ronge, comme un poids qui l'épuise. Elle a peur de toi. Elle a peur de toi, et tu ne peux pas avoir pitié d'elle. Et quand elle se libérera, tu l'entendras hurler d'épouvante, et toi, à ce moment-là, tu devras peut-être la tuer pour avoir voulu venir au monde trop vite. La paix n'est pas possible. Nous sommes deux.
Je vais vous proposer un exercice un peu hors piste. On parle beaucoup des grands sentiments et des grandes choses de la vie. Et moi, j'aimerais parler du concret, des petites choses qui passent inaperçues et qui me choquent. Donc, je vais passer par trois anecdotes. La première, ça s'est passé mercredi à Gévesey. J'habite pas loin de l'église. Et il faut savoir qu'à Gévesey, il n'y a pas de place publique. Il y a une petite placette autour de l'église, mais elle est vraiment très étroite. Et depuis mon appartement, j'entends les cloches de 7h à 22h, toutes les heures, sans exception, même le dimanche. Et là, les jours, je ne parle pas des jours de baptême et des jours de mariage. Et là, ce matin-là, j'entends les cloches sonner et j'entends en plus des chants religieux plein de balles. Et j'ouvre ma fenêtre pour regarder ce qui se passe, parce que c'est quand même inhabituel, normalement. Ça reste dans le cadre de l'église. Et là, je vois tout un tas de gens endeuillés. Ils devaient être 200. Et en fait, ils écoutaient la cérémonie d'obsèques depuis l'extérieur. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans l'église. Et donc, je suis sortie. Et c'était très étrange, cette situation, entre le fait que les gens ont le droit de porter leur deuil et de se rassembler et d'avoir le culte qu'ils veulent. Et en même temps, c'était une cérémonie religieuse. Qui se déroulait en place publique. Et j'avais pas le choix de l'entendre ou pas. Et je me suis aussi fait la réflexion que c'était... Qu'est-ce qui fait communauté, en fait, dans les petits villages autour de Rennes, où l'activité se passe plutôt à Rennes. Et en fait, c'est la première fois, à part la Flume Enchantée, où je voyais une vraie activité communautaire en extérieur, dans les rues de Gévesey. Je veux dire en place publique, pas dans un lieu de consommation. Et ça m'a beaucoup questionnée. La deuxième chose, c'est cette histoire d'arbitraire. Il paraît qu'aujourd'hui, les femmes doivent accoucher avec un masque sur le visage. On questionne la présence du papa, qu'il soit diffuseur d'ocytocine ou pas. Et on vient de demander à beaucoup de gens dans les métropoles de ne pas sortir entre Donc 9h du soir et 6h du matin. Et je me demande qui c'est qui décide ça. Qui fait ce choix-là et où se situe l'arbitraire? Pourquoi ça paraît prioritaire et ça paraît logique? Et la dernière chose, c'est un post que j'ai vu circuler sur un réseau social qui disait « Ce serait super de faire une exception culturelle et que les billets de théâtre permettent de circuler dans les métropoles où il y a le couvre-feu. » Et je me disais « En fait, ça veut dire que les gens qui ont des sous et qui peuvent aller au théâtre auraient le droit de sortir et puis les autres pas. » Et après, je me suis dit « Mais pourquoi, juste à ce moment-là, si on a un problème d'intégration, de communauté et de partage, pourquoi c'est pas à ce moment-là qu'il y a une grande révolution façon TNP ?» où on vient chercher les gens en car en respectant les protocoles Covid et on leur propose des places de spectacle gratuits et ça devient un vrai service public. Pourquoi il faudrait toujours penser les choses selon une morosité? Alors je sais que c'est la crise, je sais qu'il y a plein de raisons, mais en fait je me dis qu'il y a aussi peut-être des arbitraires qui pourraient aller dans le bon sens. Voilà, c'était tout.
Sexy things you do, baby, 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 let me talk to you. I just love to whisper in your sexy ear, tell you that I love you, take away your fear, destroy your inhibitions, right you have to be. Low down, keep you low down in that forget way.
C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Parce que pas faux. Do dièse. Juste un moment, s'il te plaît, il faut que je m'accorde. Faut que je m'accorde à vos violons dingres. À vos violents dingres. Violons torrents d'ingratitude. L'oreille injuste me porte des mélodies du faux pas. Marche de crabe, les pieds bleus. Trois accords sur une guitare achetée à 100 francs dans les années 90 à mon ami. Et maintenant c'est lui qui joue. Il n'a rien d'un mélomane. Mais il cherche à magnifier notre instant. T'écris quoi, qui me dit ? Ce que je pense, entre deux bouffées de cigarettes et la tasse de rosée, chauffée par le soleil d'orage. Ce que je pense. Georges Brassens s'invite à notre campement. Sa lèvre se pince, il se concentre pour que la corde sonne simple, sonne pure sous les pins. La mer dit vague, derrière la haie de petites falaises. Nirvana étonné. L'atlas reste fermé. Plus de route, plus de chemin. Nous sommes assis dans le jour, dans l'herbe brunie par le soleil, et comptons bien y rester. Mon enfant est loin, le souvenir des vacances avec mes parents. Simple, sans débordement, calme, et papa qui joue toujours les mêmes Led Zeppelin. L'odeur du melon trop mûr, presque alcool, et puis le silence.
C'était les passagers sur les ondes d'Univers 99.9 en direct, donc et sur le www.radio-univers.com. Merci à Anne, Céline, Shadi qui a mis avec brio en musique tous les textes que nous avons pu lire, des textes justement de Anne Deloane, de Céline, de Guillaume Siedo, de Jacques Higelin, de Giovanni Papini. que l'on a pu trouver durant cette émission, une émission que vous pouvez retrouver donc sur le www.radio-univers.com en réécoute, et vous pourrez bien sûr la retrouver le mois prochain, le troisième lundi du mois. Et il y aura aussi un atelier d'écriture au Barzouge, à Bazouge Souédé, qui aura lieu le premier lundi du mois, dans 15 jours, à 19h30. Et donc le rendez-vous est donné, vous pouvez nous y retrouver. Voilà, les passagers, c'est terminé. On se retrouve donc le troisième lundi du mois de novembre. Salut, bonne soirée.